Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Lievin Mbwinga à la présentation.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la radio de la paix, à la une de l'actualité de ce soir. Pas de discussion entre le gouvernement et les rebelles aujourd'hui à Doha. Ces négociations sont reportées malgré la présence des délégations du gouvernement congolais et de rebelles sur place. Plusieurs raisons sont évoquées, comme les divergences de vues sur les conditions d'un cessez-le-feu. Nous en parlons dans un court instant. Et puis le bilan des inondations du week-end à Kinshasa bondit. Il passe de 33 à 43 morts selon un communiqué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La première ministre, elle, est attendue mercredi prochain à l'Assemblée nationale pour éclairer les élus sur cette catastrophe naturelle. Dans ce journal également, cette réaction de la société civile congolaise face aux inondations du week-end à Kinshasa. Elle propose entre autres d'éduquer la population sur la gestion des immondices pour éviter de futures catastrophes. Vous suivrez le coordonnateur de l'Azado, Jean-Claude Katende, est notre invité. Je le disais en titre, les négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 prévues ce mercredi à Doha sont reportées. Des discussions pourtant annoncées comme un tournant décisif dans le processus de paix à l'est de la RDC. Quant au motif de ce report, les deux camps évoquent des raisons d'organisation selon l'agence de presse Reuters. D'autres sources mentionnent des divergences sur les conditions d'un cessez-le-feu, ce qui complique les perspectives de dialogue entre les deux délégations qui sont pourtant présentes au Qatar. Martial Papimoukeba pour les détails.
Présentée comme une avancée majeure dans la recherche d'une sortie des crises à l'est de la RDC, la rencontre entre les gouvernements congolais et les rebelles de l'AFC M23 à Doha a finalement été reportée selon l'agence Reuters. Les deux camps ont précisé qu'aucune invitation officielle n'avait été envoyée, un responsable congolais reconnaissant même, je cite, « un problème d'organisation ». Cependant, d'autres sources confirment que les deux délégations se trouvent à Doha. La délégation de l'AFC M23, conduite par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimwa, accompagné du colonel Imani Nzenze, chargé des renseignements et des opérations militaires, aurait même posé plusieurs préalables qu'elle présente comme des mesures de confiance pour entamer des négociations directes avec les gouvernements. De son côté, les gouvernements exigeraient un cessez-le-feu sans condition, notamment les retraits des rebelles des villes de Bukavu et Goma. Nos sources évoquent des positions transmises à la médiation Qatari qui annonce des discussions difficiles dont l'issue dépendra de la volonté des deux parties à trouver un terrain d'attente. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Sur le terrain en Nord Kivu, une semaine après le retrait des rebelles du M23 au chef-lieu du territoire de Walikale, les esprits s'apaisent et la vie reprend son cours normal. Près de 40% d'habitants de cette partie du Nord Kivu qui étaient en déplacement sont retournés dans la cité. Toutefois, selon nos sources, l'administration publique tarde encore à reprendre ses activités. Reportage Élise Kavira.
Quelques pharmacies, les petits marchés dits Limanga, les salons de coiffure ont rouvert leurs activités au centre Walikale 6 jours après ce mercredi, depuis le retrait le 2 avril dernier des rebelles du M23 des 7 entités chef-lieu du territoire de Walikale. Selon nos sources, alors qu'un climat d'espoir régnait dans la zone, la monnaie ne circule pas. Les réseaux de téléphonie mobile qui étaient très utilisés dans la zone pour des transactions restent coupés. C'est notamment Vodacom et Airtel. Seul Orange fonctionne difficilement cependant. Du coup, l'oisiveté affecte encore plusieurs habitants retournés. On peut constater des jeunes en petits groupes par-ci par-là, passant leur temps à discuter des expériences vécues, les uns en brousse ou dans la cité pendant environ 15 jours d'occupation rebelle de cette partie du territoire de Walikale. Pour nos sources, l'administration publique n'est pas encore fonctionnelle. L'administrateur militaire et le chef de secteur Wanyanga sont déjà dans la zone, mais les bureaux n'ont pas encore ouvert en raison des dégâts ou des vandalismes des bureaux administratifs par les rebelles. Rappelons que les rebelles M23 ont occupé du 22 mars au 2 avril le chef-lieu du territoire de Walikale à l'issue des violents affrontements avec les FARDC et les Wazalendo.
Sud Kivu cette fois, les Wazalendo se sont affrontés aux rebelles du M23 dimanche et lundi dans les hauts plateaux du territoire de Calais. Bilan, les agglomérations de Chanje, Bushaku 1 et 2 ainsi que Nyawaronga sont tombées entre les mains de la coalition Wazalendo. Nos sources dans la région renseignent en plus que la majeure partie de la population est en déplacement vers Bushushu, Mabuka et Iusi. Le point avec Blaise Shindani Kambala.
Bien que la situation soit revenue calme ce matin, hier, les affrontements étaient orientés vers les collines surplombant Bouchouchou, les Meira et Ioussi. Selon les activistes des droits de l'homme présents dans la zone, la coalition Wazalendo ont récupéré agglomération de Changé, Bouchakou 1, Bouchakou 2 et Niawaronga après deux jours d'intenses combats. Les groupes Wazalendo coalisés sont constitués de COPACO et MCDPN commandés respectivement par les généraux autoproclamés Kiriki Sho, Maïke, Baïgué et les autres. La population a fouillé leur village vers les localités qui sont encore jusque-là plus ou moins en sécurité. Les M23 ont été aperçus positionnés au centre de Kalehe à Ioussi, ce qui inquiète la population de la partie littorale du lac Kivu qui jusque-là observe encore une accalmie éphémère.
Situation sécuritaire plutôt confuse du côté de Lubutu à Maniema. À l'origine, un conflit de leadership opposant deux groupes de Wazalendo qui s'affrontent depuis hier mardi. Cette situation crée la paralysie de toutes les activités, le déplacement des populations, fait savoir le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité à Radio Kapi. Lawamo Selemani Taylor appelle ainsi ces deux groupes à la cessation immédiate des hostilités et de privilégier la paix. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur, Lawamo Selemani Taylor. Lors au micro de Florence Kizalunga.
La situation est encore confuse dans les territoires de Lubutu parce que hier il y avait des affrontements entre M. Mando et son compagnon d'élite M. Bukui. Alors cette situation a entraîné des déplacements massifs, la paralysie des activités. On n'a pas encore les bilans très précis, mais nous sommes en train de travailler avec les services locaux. C'est les conflits de leadership et la gestion de leur butin qu'ils obtiennent indiment à gauche et à droite, selon les informations que nous avons. Voilà ce qui nous déçoit au plus haut niveau en cette période où nous avons besoin de l'implication de tous les Congolais et Congolaises pour faire face à la situation d'agression de l'Est. C'est pourquoi nous demandons à nos frères Mando et Bukui de ne pas se laisser manipuler. Les sangs des Congolais ont beaucoup coulé avec l'agression de ces M23 appuyés par les Rwandais. Donc ça ne sert à rien de s'affronter pour créer des paniques à la population. L'idéal pour le chef de l'État et pour toute la population congolaise, c'est que les Wazalendo puissent appuyer les FARDC pour bouter hors d'état de nuire l'agresseur du Congo.
C'est le retour au calme dans la cité de Bolobo, ce après de vives tensions observées entre communautés Teke et Nounou, troubles ayant occasionné la mort de trois personnes et l'incendie de plus de 40 maisons. Le gouverneur de province du Maïndombé, qui le dit, fait savoir aussi que plusieurs armes de type calibre 12 et autres armes blanches ont été récupérées des mains des membres de ces deux communautés. Par ailleurs, le bon Koso Kevani déplore le faible effectif des policiers et militaires dans sa province, raison pour laquelle il plaide auprès des autorités nationale pour leur déploiement dans le territoire de Bolobo afin de renforcer la sécurité des populations. On écoute le gouverneur Koso Kevani au micro de Irène Mboma Luzolo.
Nous sommes en contact avec la hiérarchie à Kinshasa parce qu'il faut vraiment un déploiement d'un grand nombre de policiers et même de militaires. Alors ici, dans le Maïndombé, l'effectif n'est pas assez important. C'est pourquoi nous avons fait recours à Kinshasa et nous attendons que les autorités au niveau de Kinshasa puissent réagir. Parce qu'il faut vraiment un dispositif important des policiers pour essayer un peu de dissuader tout ce qui pourrait advenir. Toutes les armes ont été récupérées et jusqu'à aujourd'hui, donc elles sont détenues par les services de l'ordre. Tout ça, présentement, il y a parce que nous avons même sensibilisé les chefs des terres et surtout les chefs des chefferies qui est d'ailleurs en tournée pour aller donner ce message-là de paix dans des villages de manière à ce que tous ceux qui étaient partis, qui avaient traversé de l'autre côté, reviennent. Et ils sont déjà en train de revenir. Et surtout ici à Bolobo, déjà, les gens sont revenus. Ils restent maintenant dans d'autres villages où on est en train de faire ce travail-là de sensibilisation. Et j'ai utilisé le même chef de terre pour pouvoir le faire.
L'actualité reste encore et toujours dominée par les inondations du week-end. Le bilan de cette catastrophe naturelle s'alourdit. Il passe de 33 à 43 morts, selon un communiqué publié hier mardi par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Entre-temps, le nombre des sinistrés hébergés dans les différents sites d'accueil officiels s'élève aujourd'hui à 2956 personnes, alors que 46 sont hospitalisées. Par ailleurs, Jacquemain Chabani recommande à la population d'éviter tout déplacement non essentiel vers les zones touchées ou identifiés comme à risque élevé. Il exhorte enfin la population à faire preuve de discipline, de solidarité et à suivre attentivement les instructions des autorités locales dans les communes concernées. Je vous informe aussi que la première ministre Judith Suminwa, attendue mercredi prochain à l'Assemblée nationale, objectif éclairer la lanterne des élus, évidemment, sur les inondations qui ont endeuillé la capitale après les pluies diluviennes du week-end dernier. C'est en tout cas ce qui ressort de la rencontre hier mardi entre le bureau de l'Assemblée nationale et les élus nationaux de la ville de Kinshasa. Le représentant du peuple exige une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans le futur. Michel Kifindangoy.
Dans leur plaidoyer, les élus de Kinshasa commencent par peindre un tableau sombre des dégâts matériels et humains qu'ils ont relevés sur terrain lors de leur descente individuelle pour les uns et avec l'autorité provinciale pour les autres. Une situation qui nécessite une intervention urgente du gouvernement.
Les gens qu'on a vus au stade ne représentent même pas 10% des victimes. Les maisons sont emportées par la pluie, les voitures se sont retrouvées sous l'eau. Le gouvernement doit prendre des mesures qui attristeront certains, mais ça sera pour notre bien à tous, pour les futurs. Ils doivent détruire certaines maisons et même les églises pour permettre à l'eau de couler paisiblement.
Face aux dégâts matériels inestimables et aux désastres humains causés par cette catastrophe naturelle, le président de l'Assemblée nationale invite le gouvernement à mettre en place un plan d'intervention humanitaire pour apporter une assistance adéquate aux sinistrés. Vital Kamerhe annonce aussi aux élus de la convocation devant la plénière le mercredi 16 avril prochain de la première ministre Judith Suminwa et de tous les ministres sectoriels ainsi que de ceux des finances et budget afin de répondre aux préoccupations des députés sur la mise en œuvre des mesures préventives face à cette catastrophe naturelle dont on pouvait éviter les dégâts.
En rapport toujours avec ce dossier, sachez que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de mettre en place une commission chargée d'enquêter sur les causes des inondations survenues le week-end dernier dans la capitale. Composée de 16 députés provinciaux et de 2 experts, cette commission visitera les sites touchés par ces inondations du samedi 5 au dimanche 6 avril 2025 afin de dresser un état des lieux. Ce sera également l'occasion de rencontrer les familles affectées pour évaluer leurs besoins urgents selon des sources proches de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La dite équipe dispose de 10 jours pour rendre les conclusions de ces enquêtes. Santé avec ces chiffres, 26% de femmes ou de bébés meurent pendant les accouchements, triste réalité vécue dans des structures sanitaires de Bounia en Ituri au cours de l'année 2024. À la base de cette forte mortalité néonatale, l'ignorance et la négligence de certains parents expliquent la synergie des sages-femmes et des gynécologues qui livrent ce bilan ce mardi. La responsable du programme national de santé de la reproduction en Ituri indique quand même qu'un plan de riposte est mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Martial Kizabiamongu pour les détails.
De nombreux décès sont enregistrés lors des accouchements dans des hôpitaux de Bounia. C'est soit par négligence de certains parents, soit à cause des erreurs médicales ou des prises en charge déficientes. Achille Desonga Chaou est gynécologue obstétricien et président de la Société congolaise de la pratique sage-femme, indique que 26% des morts ont été enregistrés durant l'année 2024 dans la ville de Bounia. Victime d'une mauvaise prise en charge dans une formation médicale de la place, cette femme qui a reçu l'anonymat affirmait avoir perdu un de ses jumeaux lors de l'accouchement.
À l'hôpital là où j'étais, il n'y avait pas les machines de réanimation. On était obligé d'aller à l'hôpital là où il n'y avait pas d'énergie. Nous étions obligés d'aller chercher les groupes électrogènes pour sauver la femme. Le lendemain, la femme était décédée. C'était un choc vraiment terrible pour nous.
Pour faire face à cette situation, la chargée du programme de santé de la reproduction de la province de l'Ituri précise qu'une formation des prestataires en santé est en cours. Le docteur Doudou Kové appelle également les parents à respecter les étapes de la consultation prénatale. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Et puis démarrage demain jeudi 10 avril de la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la province de la Tchopo et ce jusqu'au 14 avril prochain. Près de 2 millions d'enfants dont l'âge varie de 0 à 14 ans, sont attendus dans cette opération. En prévision de cette campagne, le gouverneur de province, Paulin Lendongolia, demande à la population de s'en approprier en vue de sa réussite. Il appelle à cet effet les parents à apprêter leurs enfants cibles par les vaccinateurs, car les vaccinateurs passeront de porte à porte pour cette activité.
Actualité internationale.
Au Soudan, des centaines de réfugiés au Caire cherchent à rejoindre Khartoum en bus. La reprise de plusieurs états centraux par l'armée soudanaise pousse de nombreux réfugiés à regagner leur pays. Fuyant la guerre depuis avril 2023, plus d'un million de Soudanais avaient trouvé refuge en Égypte. Aujourd'hui, près de 200 autobus prennent le chemin de retour vers Khartoum. Mais à la frontière, les longues attentes s'accumulent en raison de contraintes administratives et logistiques.
L'invité.
Éduquer la population sur la gestion des immondices pour éviter les inondations, telle est la demande formulée par la société civile congolaise aux autorités en vue d'éviter des catastrophes liées aux pluies diluviennes dans les prochains jours. Jean-Claude Katende, coordonnateur de la ZADO, explique l'importance de curer les caniveaux. Il s'entretient ici avec Étienne Lissoumbo.
Jean-Claude Katende, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique à votre avis les résurgences des inondations après chaque pluie à Kinshasa?
Il est important de savoir que les pluies diluviennes sont un phénomène normal. Mais les inondations, quant à elles, elles montrent d'une part l'irresponsabilité du gouvernement, mais aussi de la population. Si vous constatez bien, vous allez voir que la plupart des milieux qui ont été inondés, c'est soit parce que principalement les gens ont construit à des endroits où il ne fallait pas, et ça, c'est le gouvernement, en fait, les institutions publiques et qui doivent savoir qu'à tel endroit, on ne peut pas construire. Mais on a donné des documents officiels aux gens leur permettant de construire à des lieux où toute construction est interdite. Pour ce qui concerne le cas récent, il y a lieu de relever qu'on pouvait en réduire au moins les conséquences. Il y a plus de deux semaines que la météo avait annoncé qu'au mois de mars et le mois d'avril, il y aurait des pluies diluviennes à Kinshasa. Les autorités auraient pu au moins prendre des mesures pour alerter les populations qui habitent dans ces endroits-là à risque et éventuellement les évacuer momentanément. Mais le gouvernement n'a pris aucune mesure. Ne fût-ce que pour aller dans ce quartier là-bas avec les mégaphones, dire aux gens, faites attention, il y aura des pluies de telle nature, il faut quitter les lieux. Et au besoin, les contraindre à quitter parce que c'est de la responsabilité du gouvernement. Et donc, on vit encore comme si on était à l'époque où la technologie n'a pas évolué pour alerter les autorités et les populations sur les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez entendu le gouverneur de la ville de Kinshasa dire « il faut que vous soyez capable de vous prendre en charge ». Non, quand ce genre d'événement arrive, c'est le gouvernement qui doit prendre la responsabilité pour secourir les populations comme on est en train de le faire maintenant.
Quelle est la responsabilité de la population face à ces catastrophes et comment doit se comporter pour éviter ces catastrophes?
Il faut retenir que ce n'est pas la première inondation. Les inondations précédentes ont eu lieu dans les mêmes lieux. Et vous allez voir qu'après que l'émotion ait passé, les mêmes populations vont retourner dans les mêmes endroits. Elles vont totalement ignorer les alertes de la météo. Mais parce que ces inondations sont presque régulières, pourquoi l'État ne prendrait pas des dispositions pour reloger ces personnes dans d'autres sites, leur donner un peu de moyens pour qu'ils construisent à des endroits habitables et que toutes ces maisons qui sont construites dans les lits de certaines rivières à Kinshasa soient détruites. Ça, c'est de un, mais il faut aussi curer toutes ces rivières. Un autre problème, c'est au niveau de l'éducation de la population en rapport avec les immondices qu'on jette partout. Et vous voyez que même les bouteilles en plastique, les plastiques sont jetés partout. Ça, c'est encore de la responsabilité de la population parce qu'on doit savoir que les rigoles ont besoin d'être dégagés pour évacuer l'eau. ça veut dire que nous-mêmes, nous ne prenons pas soin de notre environnement.
Que recommandez-vous à l'autorité publique pour une solution durable face à ces problèmes?
Je pense qu'il faut aujourd'hui établir une feuille de route pour pouvoir dégager toutes ces populations des endroits qui sont affectés très rapidement par les inondations. Deuxième chose, il faut éduquer la population, il faut un programme pour éduquer la population. Mais il faut aussi qu'on prévoie des sanctions pour toute personne, par exemple, qui serait attrapée en train de jeter des bouteilles en plastique ou des sachets sur la rue ou dans les caniveaux. Je pense qu'il faut des mesures vraiment contraignantes pour arriver à faire changer la situation. Sinon, à chaque fois où il y aura des pluies diluviennes, nous allons continuer à nous lamenter. Sous émotion, on va dire, voilà, on crée un comité de crise, on fait ceci. Et dès que l'émotion est passée, tout le monde oublie et tout le monde rentre à ses occupations habituelles. Et on ne peut pas gérer un pays comme ça.
Jean-Claude Katende, la Radio Capi vous dit merci.
Merci.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Au nom de Pele Kipela Mondo, Blaise Chindani et Dieudonné Nyangassa, je vous dis merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.